Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Sortez. Nous sommes le lundi, j'allais dire 16 septembre, mais non, on n'est pas à l'heure dans ce studio, le 21, lundi 21 septembre. Merci de nous écouter, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Tour 99.5 FM pour la reprise, le début de cette nouvelle semaine ensemble. Cette semaine, pas mal de choses de prévues, puis on commence bien cette semaine car aujourd'hui on reçoit Marie Indy, bonjour. Marie Indy qui est donc programmatrice tout public à l'Espace Malraux, et donc l'Espace Malraux, ça va être notre sujet aujourd'hui, c'est parti. Donc bonjour encore une fois, merci d'être avec nous sur Radio Campus Tour. Donc vous êtes là pour parler de l'Espace Malraux de Joué-les-Tours. En quelques mots pour commencer, qu'est-ce que l'Espace Malraux ?
Alors l'Espace Malraux, c'est une salle de spectacle donc, qui est située à Joué-les-Tours sur le bord de la Rocade. C'est une salle de spectacle composée de plusieurs salles de spectacle. En fait, il y a un grand auditorium de 1000 places. Une petite salle de spectacle, enfin petite qui fait quand même 200 places, un grand hall dans lequel on a aussi une autre scène, sur laquelle on organise aussi des petits concerts, et puis plein de petites salles de réunion, parce qu'au-delà de la saison culturelle, on est aussi un lieu événementiel, c'est-à-dire qu'on loue les salles à des entreprises, des associations. D'ailleurs, je crois que le prochain salon de l'étudiant, qui aura lieu début octobre, se tiendra à l'Espace Malraux.
L'Espace Malraux, donc c'est à Joué-les-Tours. Est-ce que vous savez à peu près depuis combien de temps ça existe ?
La salle a 31 ans, puisque je le sais bien, puisqu'on a fêté les 30 ans en janvier 2019. Donc, la salle a 31 ans. Je dois dire que pour une salle de cet âge, elle est super bien conservée. En fait, c'est une salle municipale, donc c'est la ville de Joué-les-Tours qui a investi régulièrement depuis sa création pour toujours la garder dans un niveau de technologique, notamment du matériel technique pour l'accueil des spectacles qui est toujours super performant. Donc on a la chance d'avoir une super belle salle qui en plus est très très bien équipée.
C'est une des plus grandes salles en Indre-et-Loire ?
Alors après le Vinci, en fait la grande salle du Vinci fait 2000 places, sans compter le grand hall hein, bien sûr. Oui. Mais oui, c'est la plus... Enfin après le Vinci, c'est la plus grande salle assise.
Donc la deuxième plus grande salle assise du département. Quoi. Ouais. Donc c'est une salle importante. On sait aujourd'hui, pour ceux qui connaissent l'Espace Malraux, évidemment on reviendra sur la programmation tout à l'heure en deuxième partie d'interview, c'est une salle où il y a énormément d'artistes français, même pour certains internationaux, qui viennent se produire ici. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du temps ?
Alors quand la salle a été construite à la fin des années 80, en fait au départ elle était plutôt destinée à faire de l'événementiel. Les premiers spectacles qu'on a accueillis, c'était des grandes formes parisiennes. Alors moi j'y étais pas encore, hein, mais ce que je connais de l'histoire c'est ça, c'est-à-dire que c'était plutôt une petite cité des congrès, puisqu'à l'époque le Vinci n'existait pas, le Vinci a été construit au moins 10 ans après. Donc elle a plutôt été imaginée comme une cité des congrès, cette salle. Et puis à partir de 1980, le statut a évolué la ville à l'époque a souhaité en faire un vrai théâtre avec une saison culturelle très vite dédiée aussi pour les enfants, parce que c'est une de nos marques de fabrique. On a une saison jeune public qui est vraiment destinée, écrite pour l'enfance de 1 à 15 ans. Ensuite, c'est la saison tout public qui prend le relais. Donc, en fait, dans cette forme-là, concrètement, ça existe depuis les 95, je dirais 95-96. Donc, ça fait 25 ans que c'est une salle qui accueille régulièrement, et même, je dirais, par an, en moyenne 80, il y a 80 spectacles accueillis toute l'année,
Ouais, donc c'est un chiffre assez important quand même, quelque chose d'assez imposant. Vous venez de l'évoquer rapidement, il y a évidemment donc la saison tout public, il y a les spectacles jeunesse, il y a quoi d'autre comme événements qui se tiennent à l'Espace Malraux ?
Alors, des salons divers et variés, je parlais du salon de l'étudiant tout à l'heure, mais par exemple on a accueilli l'armée la semaine dernière qui venait faire une réunion, on accueille régulièrement le salon des hygiénistes de l'hôpital Trousseau ou le syndicat d'énergie de Touraine qui vient faire sa réunion aussi régulièrement. En fait tout type d'événements d'entreprise ou de promotion d'entreprise, enfin voilà, c'est très très varié et ça c'est vraiment une activité qui est à côté, mais qui est complètement intégré au lieu. C'est-à-dire que le jour, on a des salons, des professionnels qui viennent pour diverses raisons, et le soir, des spectacles et du public.
Et je crois qu'il y a aussi des actions culturelles Qu'est-ce que c'est les actions culturelles à l'espace Malraux?
Ouais, alors les actions culturelles, effectivement, c'est tout le pendant de nos actions, enfin tout le pendant des actions culturelles aux côtés de la saison culturelle, puisque en fait, et ça, on le développe aussi largement autour du jeune public. On a comme ça tout un outillage d'ateliers, de sensibilisation, d'actions, de rapprochement entre les artistes et le public. C'est ce qu'on appelle la médiation culturelle. En fait, on travaille au quotidien pour promouvoir nos spectacles aussi avec des publics qui au départ pensent qu'ils n'y ont pas accès, parce que c'est bien le problème dans le spectacle vivant depuis quelques dizaines d'années, c'est que plein de gens parmi nous pensent que voilà, c'est pas pour eux le théâtre. Et ces actions, par la sensibilisation, par la rencontre, par le fait d'amener les artistes aussi directement vers les publics et pas d'attendre que les publics viennent au théâtre, et ben voilà, ces actions visent à rapprocher comme ça et un peu à démocratiser les choses, d'autant plus aujourd'hui, on l'a encore vu pendant le confinement, en fait, c'est le numérique quand même qui a envahi nos vies. Mais il ne faut pas oublier que l'art se consomme d'abord sous sa forme vivante, en fait. C'est vraiment ça d'abord qui compte, c'est-à-dire que rien n'existerait sur des écrans si d'abord ce n'était pas conçu en chair et en os, quoi.
Mais ces écrans sont peut-être un moyen aussi de vous, ouais, aider dans cette médiation culturelle, finalement.
Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est ce à quoi on travaille. Maintenant, aujourd'hui, les chiffres sont pas toujours à notre avantage, hein. On le sait bien. Nous, d'ailleurs, on le voit au quotidien. En dehors de la saison jeune public, la moyenne d'âge de notre public, c'est plutôt entre 40 et 50 ans. Donc on travaille aussi, grâce à l'action culturelle, à tenter de rajeunir et de diversifier nos publics.
Donc pour faire découvrir à tout le monde tout ce qui se passe dans,
ouais,
une salle de spectacle.
Toute la richesse, parce qu'en fait le spectacle vivant, alors Malraux, c'est une pluridisciplinarité de spectacle, de la danse, du théâtre, des concerts, du cirque aussi, et de l'humour, beaucoup d'humour. Et on voit bien qu'en fonction des esthétiques, on a une typologie de public. Par exemple, quand on accueille Djal ou des stand-uppers, effectivement, là, on touche vraiment des publics de 15 à 30 ans. Quand on accueille Jacques Weber sur la scène pour une pièce de théâtre, là, la moyenne d'âge se passe plutôt à 50-60 ans. Mais pour autant, ce que raconte Jacques Weber, c'est pas moins intéressant que ce que peuvent dire d'autres humoristes. L'idée, c'est d'arriver à donner envie, en fait, donner envie aux gens de découvrir ça.
Évidemment. On parle donc depuis tout à l'heure des artistes et tout ça. On est dans un contexte, forcément, qu'on est obligé d'évoquer. Les auditeurs commencent à avoir l'habitude. Un contexte de Covid, évidemment, qui, ouais, en plus se durcit parce que, donc, vous le savez probablement, on est en zone rouge. Donc, je parle évidemment pour les auditeurs. On est en zone rouge depuis samedi, ouais, et des nouvelles mesures ont été prises. J'ai vu sur votre site internet qu'il y a un début de déprogrammation pour certaines choses, certains événements. On y reviendra, évidemment. Est-ce que vous avez un petit peu peur de l'avenir avec ce contexte sanitaire, ou parce qu'il y a quelques semaines, je sais que voilà, les salles de spectacle commençaient à être un petit peu optimistes, à se dire c'est bon, on est reparti, tant mieux. Est-ce que maintenant il y a une crainte qui s'installe de nouveau?
Mais en fait, il y a une incertitude surtout. Le cap de la peur, on l'a passé. Enfin, je pense que le confinement nous a tous bien fait flipper.
On a eu le temps de comprendre.
On a annulé énormément. Enfin, on a tout annulé concrètement. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'incertitude en fait qui nous envahit. C'est-à-dire que nous, pendant le confinement et par la suite jusqu'au mois de juillet, on s'est dit OK, on annule, mais par contre, on repart à fond la caisse parce qu'on est sûr qu'à l'automne, les gens auront envie, besoin de sortir, de ressortir, d'aller voir des pièces, tout ce qu'on a raté en fait au printemps dernier. Et puis surtout, on espérait que la situation s'améliorerait. On constate aujourd'hui que, là, évidemment, la situation s'est améliorée, mais qu'elle nécessite encore une grande vigilance sanitaire. Donc en fait, pour ce qui est du protocole, on a mis en place un protocole qui doit nous permettre, hein, de faire venir un public nombreux à l'espace Malraux en toute sécurité. Donc ça passe par le masque obligatoire. Alors ça, c'est inscrit dans la loi aujourd'hui. Ouais. Hein, zone rouge ou pas zone rouge, zone rouge, zone verte. En fait, aujourd'hui, on va au cinéma, on va au théâtre avec un masque. Ce que change la zone rouge pour nous, concrètement pour le public, c'est une distanciation. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui tenu de mettre un siège entre chaque groupe de spectateurs. Donc, potentiellement, la grande salle à Malraux faisant 1000 places, on peut jouer à 70% de la jauge. Donc, pour nous, ville de Jouer-les-Tours, c'est pas un souci. On y va. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, derrière cette réduction de jauge, c'est que c'est aussi une réduction des recettes de billetterie et que le spectacle vivant, c'est une grosse économie. Et l'espace Malraux étant une grosse salle, nous, nos recettes de billetterie sont vraiment importantes pour maintenir nos budgets chaque année. Mais pour autant, la ville, à travers le conseil municipal, a décidé de maintenir la programmation tant que les artistes tournent. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a prévu de faire, si les artistes sont là, on va jouer même à 70% de nos recettes. Ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, toute la partie commerciale de notre action, notamment les réunions, etc., beaucoup se sont annulées et beaucoup vont continuer à s'annuler. Et même certains spectacles vont s'annuler. Je pense à Jérémy Ferrari qui devait jouer... mercredi soir, là, qui a été repoussé parce qu'il était programmé par un tourneur privé qui, lui, a besoin de 100% de ses recettes pour jouer. Ce qui n'est pas le cas, nous, en tant que ville, de jouer les tours subventionnées et fonctionnant avec de l'argent public. Les structures qui fonctionnent avec de l'argent privé ont besoin des recettes pour vivre et pour pouvoir maintenir les tournées. Et c'est ce qui fait qu'il y a sans doute là, passant en zone rouge, un certain nombre de spectacles, et notamment les one-man shows, qui risquent de s'annuler. C'est pas le cas pour la programmation Malraux typique, quoi. Et je parle aussi de Blague à part, le premier festival de l'humour qu'on va ouvrir là à la mi-octobre. Donc l'incertitude, elle est à ces endroits-là. Et c'est vrai que pour les structures privées, là, il y a une peur. Là, au-delà de l'incertitude, c'est-à-dire que pour nous, structures publiques, c'est une incertitude. Pour les structures privées, c'est une vraie peur de voir un secteur s'arrêter. Parce que d'ailleurs, pour la plupart, il est arrêté depuis le 16 mars dernier. Voilà.
Et justement, ce secteur, est-ce que vous savez si, justement avec ce retour, cette nouvelle vague probable qu'on est en train de voir, est-ce qu'il y a un soulèvement, un ras-le-bol, quelque chose de la part des humoristes, des artistes globalement?
Ah oui, oh bah, je sais pas.
Peut-être même des syndicats qui...
Ah oui, alors évidemment, les syndicats sont sur le coup depuis le mois d'avril. Hein. Alors bon, on a parlé de l'année blanche pour les intermittents, décrétée jusque fin août prochain. On a parlé de mesures, enfin le Premier ministre a pris la parole pour annoncer un certain nombre de mesures. Donc pour le moment, on voit pas la couleur, il n'y a pas de décret encore qui encadre tout ça. Et les structures privées vont pouvoir bénéficier d'une manne financière maintenant, à savoir comment elle va se diluer sur tout le territoire. Donc, et puis, je voudrais aussi revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a tous les prestataires du spectacle, les techniciens, les scènes de nuit qu'on connaît en Touraine, qui sont en fait des loueurs de matériel technique. Ils ont monté au plan national, ils ont monté un événement qu'on a appelé Alerte Rouge, et toutes les façades des lieux de culture de l'agglomération et de France ont été illuminées de rouge toutes les nuit, justement, pour essayer de faire en sorte de mettre un coup de projecteur sur leurs difficultés, parce que pour ces structures, pour ces boîtes-là, et même pour les régisseurs, hein, en fait, pour tous les gens qui accompagnent les artistes aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement des artistes, là. C'est tout un secteur qui est en danger, puisqu'il n'est pas forcément mis à l'arrêt, mais en tout cas, une grosse partie est mise en pause. Et comme on a de l'incertitude sur la reprise... Alors, que vont-ils devenir?
Ils ont un peu l'impression d'être les oubliés des oubliés.
Oui,
quoi.
Bah, comme les boîtes de nuit, hein, bien sûr, comme les bars de nuit. Mais effectivement, là, alors c'est un secteur que je connais moins, donc je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, oui, c'est que la situation est déjà très préoccupante pour tous ces acteurs du spectacle, qui sont en fait ceux qui permettent de mettre en lumière les artistes, hein, clairement. C'est le secteur du spectacle, c'est une grande chaîne. Et si certains maillons de la chaîne ne fonctionnent plus demain, c'est toute la chaîne qui sera mise en danger.
Donc on attend, évidemment, j'imagine qu'ils attendent des annonces, des choses.
Exactement, mais en tout cas, ils essayent d'alerter sur leur situation. Alors, il y a plein d'artistes qui se sont exprimés. Moi, j'ai entendu Julien Doré avoir un super discours en disant « Moi, j'ai les moyens d'annuler ma tournée, en tout cas de la faire débuter qu'en 21 ». 21/22, mais par contre, il avait une vraie pensée pour les techniciens, tous les gens qui entourent sa tournée, en disant que eux, par contre, ils ont une urgence économique qu'il faut prendre en compte, quoi.
Évidemment.
Et puis Jérémy Ferrari, enfin voilà, plein de gens aujourd'hui se mobilisent, les artistes, et puis ils ont l'oreille du ministère, on le voit bien, mais pour autant, la situation pour le moment ne bouge pas, mais il faut attendre que les chiffres... Mettez vos masques, tout le monde, mettez vos masques, parce qu'on a besoin que la situation sanitaire s'améliore, pour que tout le monde puisse reprendre une activité normale.
Évidemment, donc voilà, on va surveiller, évidemment, on surveillera ça à Radio Campus Tours, et voilà, on se tiendra informé au fur et à mesure du temps. On va un petit peu quitter ce volet Covid, même si évidemment il va toujours... perdurer dans nos discussions, c'est évident. J'ai envie qu'on parle un petit peu du projet d'éveil culturel en France.
Ouais.
Voilà, comment ça fonctionne?
Alors, le projet d'éveil culturel, il porte le mot d'éveil parce qu'en fait, ce projet, il intervient dès le plus jeune âge de l'enfance. C'est-à-dire qu'on a un partenariat depuis de longues dates, hein, depuis plus de 25 ans, avec évidemment les écoles, notamment de la ville de Jouy-les-Tours, mais on accueille aussi des écoles de tout le département. Mais surtout, on a un partenariat très précieux avec le service Petite Enfance. Et notamment tous les éducateurs de jeunes enfants, les puéricultrices qui travaillent en direct avec des tout-petits. Et en fait, à cet endroit-là, la culture et les artistes deviennent un outil au service de la sociabilisation de l'enfant. C'est ça l'éveil culturel. Et donc, pour nous, c'est un projet qui se développe au travers d'un festival qu'on met en place, qui s'appelle Circuit Biscuit, qui se déroule chaque année au mois de mars, et dans lequel on amène des artistes à jouer directement dans les crèches, à jouer les tours, mais aussi dans les centres sociaux, et donc à être au plus près comme ça des enfants. On a aussi tout un nombre d'ateliers qui se déroulent avec des enfants en crèche, mais aussi avec les éducateurs. Notamment, je pense à la chorale Boutu Boutchan, où là, des artistes travaillent avec tous les professionnels de l'enfance de Jouer les Tours, à un répertoire de chorale toute l'année qui, évidemment, par la suite est redonné aux enfants. Et puis, le projet, évidemment, c'est de construire le spectateur de demain, mais il y a aussi derrière ce projet une vraie dimension sociale, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de travailler sur la parentalité. Le temps entre, parce que là, on parle des professionnels de l'enfance, mais c'est aussi comment, en fait, la culture et le spectacle devient un moment partagé entre un enfant et son parent. C'est aussi toute cette question-là qu'on traite dans le projet d'éveil culturel. Et c'est passionnant parce que, alors, je ne sais pas si toi, Julien, tu as déjà vu un spectacle pour les petits à partir d'un an.
J'ai déjà vu des spectacles pour les petits, oui. Bah, alors, si j'avais un an, je m'en souviens plus exactement,
non,
je
mais...
pense. De qui a tué, je me souviens plus, mais c'était sympa.
Non, mais l'idée sur ces spectacles-là, évidemment, c'est d'avoir des formes très courtes et qui sont vraiment ce qui se développe autour des sens, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de donner un texte de Shakespeare à un enfant de 3 ans, bien sûr, mais par contre, de travailler sur la musique, travailler sur les matières, sur les couleurs, et du coup, ça donne des petites formes de 30-40 minutes qui sont des petits objets qui permettent aux enfants vraiment d'avoir les yeux grands ouverts et les oreilles aussi grandes ouvertes, et de partir comme ça dans l'imaginaire un petit temps avec leurs parents ou avec leur assistante maternelle. Et moi qui vois des spectacles de ce genre depuis très longtemps, je peux vous assurer que même en tant qu'adulte, on passe toujours un moment, c'est un petit cocon tout à fait merveilleux, quoi. Voilà. Donc on n'est plus dans le guignol, voilà ça que je veux dire, c'est qu'on est aussi chez des artistes qui écrivent vraiment pour l'enfance. C'est des spectacles qui sont super plaisants pour les enfants mais aussi pour les adultes.
Voilà, c'est quelque chose de passionnant dont on va peut-être revenir un petit peu tout à l'heure, mais on arrive déjà au moment de notre première pause musicale. On va écouter un artiste donc, qui va être, je crois, qui va passer donc à l'espace Malraux, c'est donc Arnaud. On va écouter Les yeux de ma mère tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview. A tout de suite.
Quelque chose dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, et quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds puent, c'est elle qui sait comment je suis nu. mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Quelque chose de n'allumeuse, oh, et quelque chose de n'amère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours
de retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM, toujours avec, donc toujours dans votre émission Sortez, et toujours avec l'Espace Malraux et avec Marie Indy, qui est donc la programmatrice tout public de l'Espace Malraux. On va donc maintenant évidemment parler de la programmation. Par où commençons ? Je vous laisse un petit peu peut-être commencer par ce qui arrive assez rapidement, l'Espace Malraux. Qu'est-ce que ça va être ? Par quoi ça va commencer ?
Alors en fait, non, on va ouvrir la saison avec le festival Blague à part, puisque en fait, il y a un an, on a décidé de lancer la première édition de ce festival qui est dédié à l'humour, qu'on co-organise avec AZ Productions. Et donc on accueillera trois stand-uppers qui sont assez connus, hein, la personne de Bouyan Min, le chinois marrant, ça ce sera le dimanche 16, Pablo Mira le dimanche 18, Bouyan Min, Pablo Mira le samedi 17 et Pierre-Emmanuel Barré le vendredi
le 16 du coup, 16. Le 16 et le 18 octobre.
Et puis le jeudi, pour ouvrir le festival, on accueillera un des artistes saltimbanque très connu à Tours, c'est Arnaud Aymar, en la personne de Paco Chantelapé ou de L'Oiseau Bleu, enfin, c'est sous ces noms-là qu'on le connaît un peu mieux. Et là, en fait, il viendra monter un cabaret pour lequel il jouera la première du spectacle le jeudi, donc pour ouvrir le festival. Dans ce cabaret, il a invité Diane Bono, Raymond Raymondson, puis d'autres artistes avec lesquels il a l'habitude de jouer, voilà, pour ouvrir la piste, hein, aux autres.
Ce festival fait figure un petit peu de lancement pour la nouvelle saison culturelle.
Ouais, exactement, voilà. Enfin, on avait décidé cette année de pas commencer trop tôt, hein, parce qu'on s'était dit qu'il valait mieux
être sûr. Ouais.
Voilà, pour être sûr. Donc effectivement, on ouvre la saison avec ça. Alors en plus, dans le festival, il y aura aussi des 19h, c'est-à-dire qu'on a construit la programmation sur des 19h-21h, donc on peut venir en un soir voir deux spectacles. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ce qu'on a, parce que ça va être super, et il reste des places, je crois, pour l'ensemble des spectacles. Ensuite, le 4 novembre, j'en parle parce que là, moi, c'est mon petit coup de cœur. C'est Édouard Baird. On accueillera Édouard Baird, ce beau dandy, acteur, auteur.
Multiple
facettes. Alors, on le connaît sous différentes casquettes. Hein. Il présente toujours la cérémonie des Oscars en France, ou le Festival de Cannes. Mais c'est aussi un acteur génial qu'on a pu voir au cinéma. Mais c'est aussi un auteur de théâtre et puis un comédien de théâtre. Et là, c'est un spectacle qu'il a écrit lui-même qui s'appelle Les élucubrations d'un homme soudain touché par la grâce. Quand on le connaît, on comprend que ce titre est vraiment à son image. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les pérégrinations d'un homme qui revient sur ses références artistiques. On entendra du Jean Rochefort. Il est seul en scène. scène et c'est vraiment un super beau, voilà, super beau spectacle, à la fois drôle et touchant comme lui. Après, alors on a quelques annulations puisqu'on devait accueillir Carla Bley, cette sublime jazzwoman en trio là, au mois de novembre. Mais Carla Bley, elle a presque 80 ans et elle vit aux États-Unis, donc la période ne lui permet pas de venir faire sa tournée.
Compliqué de venir. Il y a d'autres choses qui sont reportées, on peut peut-être en parler maintenant, notamment Jérémy Ferrari.
Oui, alors Jérémy Ferrari qui était prévu après-demain, donc là a priori il y a un report en février prochain. Donc là, j'invite tout le monde à se rapprocher de notre site internet et du site de Cheyenne, puisque c'est Cheyenne Productions qui le programme à Malraux.
Donc c'est ça, reporté le 12 février, voilà, ouais. 2021.
Voilà. Et puis le spectacle des Sept Doigts, passagers, québécois du... C'est du nouveau cirque, les Sept Doigts, on les a accueillis plein de fois à Espace Malraux, ils ont un public nombreux, et là, voilà, on a appris qu'ils allaient devoir annuler toute leur tournée européenne, pareil, en fin de semaine dernière, donc le spectacle est annulé, mais sera reporté sur la saison prochaine.
Et un spectacle de musique aussi par rapport au Pink Floyd.
Oui, alors, ouais, ça c'est pareil, il y a une date de report, je crois qu'il va être annoncé très bientôt. C'est pas une histoire de Covid, c'est juste que un des musiciens est tombé malade, longue maladie, et donc toute la tournée est reportée. Mais c'est aussi le cas de Claire Diterzi et de l'orchestre du Grand Théâtre. Alors là, on a dû annuler au rapport au dernier rebondissement au Grand Théâtre. En tout cas, c'est un spectacle qu'on essaiera de reporter sur la saison prochaine. Donc pour le moment, c'est tout.
Voilà. Mais par contre, on croise les doigts.
Voilà, on a parlé de ces choses-là, mais en fait, il y a aussi plein de choses qui vont vraiment avoir lieu.
Oui, évidemment.
Voilà, Festival Blague à Part, Édouard Baird.
Je vois notamment, après ça c'est pas vous qui le mettez, ah, parce que oui, vous expliquiez donc tout à l'heure avant le début de l'émission, là par exemple je vois Inès Reg qui va être donc en spectacle, est-ce que c'est vous qui le programmez directement ou justement c'est un prestataire extérieur, c'est ça?
Oui c'est ça, en fait quasiment tous les one man, alors hors ceux qui sont programmés dans Blague à Part, mais la plupart des one man qu'on accueille à Malraux en fait sont produits et programmés par des productions privées avec lesquelles on travaille de près, donc je pense à Laurie Perret, Alex Ramirez, et donc Inès Reg, Imouvrini aussi, et Aldebert, Olivier de Benoît, etc. Donc voilà, ces spectacles-là, ils sont pas. Donc ce sont ces producteurs-là qui vont décider de les maintenir ou pas. Et ce sont surtout ces spectacles-là qui pourraient vraiment s'annuler dans cette zone rouge.
Ouais.
Voilà, ce qui n'est pas le cas des spectacles de l'Espace Malraux. Les spectacles de l'Espace Malraux, ils seront maintenus même à 70% de la jauge. Voilà. Donc, oui, alors Arnaud aussi, parce qu'on vient de l'écouter là, on vient d'écouter Dans les yeux de ma mère, qui est un de ses morceaux les plus connus. Arnaud, c'est un artiste belge qui a près de 70 ans, je dirais aujourd'hui, mais un rocker qui mélange le blues, le funk, qui avait dû aussi arrêter sa tournée l'année dernière, mais qui sera présent le 3 décembre à l'Espace Malraux, et ça c'est un concert qu'on co-accueille avec le Temps Machine. C'est comme ça, la saison de l'Espace Malraux, elle est aussi émaillée de partenariats. Je pense à Arnaud avec le Temps Machine, je pense à Dans ce monde, le spectacle de Thomas Lebrun qui est le directeur du Centre chorégraphique national de Tours, qui viendra jouer sa pièce en co-organisation avec le CCN. Je pense au Bal Marmaille qui est organisé dans le cadre de Plume d'Afrique. La Plume d'Afrique qui est un festival dédié à la littérature francophone africaine.
Voilà, et ça c'est le dimanche 29 novembre, voilà. Et vous retrouverez évidemment Radio Campus Tours en direct festival Plume d'Afrique.
Tout à fait.
Pour sortez spécial de 2 heures et puis même d'autres émissions. Enfin, vous retrouverez ça parce que oui, Radio Campus Tours est aussi partenaire de Plume d'Afrique.
Voilà, on aura le temps d'en reparler plus tard, mais
oui.
Voilà, il y a des partenariats de ce type, on en a plein tout au long de la saison, aussi parce que Malraux, c'est la grosse salle qui programme dans l'agglomération et que nos partenaires qui n'ont pas le même outil de programmation, on s'acoquine ensemble et on décide ensemble de programmer tel artiste parce qu'il est commun à nos deux esthétiques. Voilà, ouais. C'est le cas d'Arnaud, c'est le cas de Dans ce monde, c'est le cas de Plume d'Afrique, parce que la Plume d'Afrique en plus c'est un triple co-accueil avec le Petit Faucheux, le Temps Machine et nous, pour Plume d'Afrique, au service de Plume d'Afrique. Il y aura aussi Lisa Simone qu'on fait avec le Petit Faucheux au mois de mars, et puis encore Anne-Thérèse de Kirchmaker qui est une chorégraphe flamande qu'on accueillera pour Phase dans le cadre de Tour d'Horizon avec le CCN en juin, enfin voilà.
Plein de partenariats.
Voilà, plein de partenariats qui font sens en tout cas pour nous et qui permettent de mélanger aussi les publics.
Avant de continuer de parler de cette programmation, ce rayonnement que vous avez, cette visibilité que vous avez, est-ce que vous en servez pour mettre en avant des artistes vraiment locaux?
Oui.
Comment ça se passe? Comment ça se traduit?
Alors, à côté de toute l'action culturelle qu'on met en place et des programmations un peu sèches qu'on a, on a aussi une grosse activité de résidence. Donc on accueille, vous voyez là, depuis 3 semaines, on a une compagnie par semaine dans nos salles qui vient travailler un spectacle en devenir. Donc travailler le texte, travailler quand c'est du théâtre, travailler les lumières, travailler la scénographie, travailler en fait en fonction de l'évolution de leur processus de création et en fonction de la proximité avec la date de première, on accueille des compagnies notamment locales. En ce moment on a la compagnie Interligne qui vient reprendre son spectacle. On avait la semaine dernière le collectif RA, qui est une compagnie de Joël et Tour. Et la semaine d'avant, on avait le théâtre de l'Imprévu, qui est une compagnie d'Orléans. Donc oui, on a comme ça tout un pan de notre activité qui vise à soutenir la création contemporaine des artistes locaux. Donc ça, c'est une chose. Et puis on a aussi un autre dispositif, c'est les avant-scènes. Où là, les avant-scènes, en fait, c'est des petits concerts qu'on organise en amont des spectacles dans l'auditorium, qui, en temps normal, permettent aux gens d'arriver en avance, de manger ou de boire un verre à la cafétéria de l'espace Malraux, et en même temps d'écouter un petit groupe. Et ça, c'est une programmation qu'on met en place en partenariat avec l'école Jazz à Tours, mais aussi au travers du repérage comme ça de petits groupes locaux, enfin de futurs grands groupes locaux qu'on invite à jouer sur cette scène. Alors, avec le Covid et tout le protocole sanitaire qu'on met en place, on va être obligé de déporter toute cette programmation dans l'auditorium. En fait, on va essayer de faire des petites premières parties au spectacle dans la salle, puisque l'idée, c'est d'éviter que les gens stationnent debout dans le hall. Donc au moment où on ouvrira nos salles, on invitera vraiment les gens à aller s'asseoir directement dans l'auditorium et on essaiera de décaler ces avant-scènes dans l'auditorium à ce moment-là.
Évidemment. On parle tout à l'heure du théâtre, on a parlé aussi de l'humour. On peut peut-être parler aussi à de la danse, il me semble, par exemple, là, dans ce monde.
Ouais. Alors, dans ce monde, c'est un spectacle donc, créé par Thomas Lebrun, qui l'a créé il y a 2 ans maintenant, qui est une espèce de tour du monde. Des cultures à travers la danse. Ce qui est génial avec la danse, c'est qu'on n'a pas besoin de mots finalement. Et Thomas, il est très doué pour faire parler les corps. Évidemment, il a un langage très contemporain, des danseurs toujours sublimes. Et dans ce spectacle, la particularité, c'est qu'il a souhaité d'abord en faire une forme jeune public, donc dédiée aux tout petits. Et en fait, il y a comme un triptyque autour du projet dans ce monde. Il y a une forme pour les tout petits-petits, une forme pour les deuxièmes cycles et une forme tout public qu'on accueillera nous le 5 décembre à Malraux. Mais pour parler de danse, et du coup je fais le lien avec la question que tu me posais tout à l'heure sur le fait de comment on accompagne les artistes locaux, il y a aussi un artiste à l'espace Malraux avec lequel on s'est accoquiné il y a plus de 20 ans maintenant, c'est Abder Zakoumi de la compagnie Express, puisqu'on l'a accompagné dans ses premiers pas de danseur, et aujourd'hui sa compagnie tourne en France et à l'international. Et en fait, lui, c'est presque un artiste associé, puisque quand le plateau à Malraux, le plateau de l'auditorium n'est pas utilisé, notamment pendant les vacances scolaires, il vient, il travaille, il installe ses danseurs, ses gros tapis et il répète un peu à volonté. Et donc là, on l'accueillera aussi au mois de février pour un double plateau de danse, un travail de duo qui s'appelle Accumulation, qui est un duo de 2 danseurs qui raconte comme ça le cycle des corps, de la danse au sol jusqu'à la danse debout, enfin le relèvement du corps. C'est très poétique, hein, c'est un peu conceptuel, mais ça dure 20 minutes, c'est super performant, mais ça n'empêche que c'est aussi très poétique. Et puis SICAP, une forme qu'il a créée avec 5 danseurs indonésiens, là-bas, lors d'une commande par l'Institut français. Et donc, cette pièce va tourner là, on espère, puisque là aussi, on verra en début d'année prochaine, mais a priori, on espère que ces jeunes danseurs vont pouvoir venir se produire.
Mais tout ça, c'est évidemment des actualités à suivre sur le site internet de l'Espace Malraux. Donc on l'a dit, espacemalraux.joueslestours.fr. N'hésitez pas à aller suivre toute cette actualité. On va continuer à parler de cette programmation, mais encore une fois, on a une nouvelle pause musicale. Tout de suite, on va écouter les Têtes Raides, qui sont donc un groupe. C'est ça qui va être que vous allez recevoir l'Espace Malraux.
Ouais, en mars prochain.
Donc voilà, en mars. Donc on vous fait écouter ça. On va écouter Ginette et on se retrouve juste après sur Radio Campus Tours. À tout de suite.
s'invente pas. Et nous on crève à rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil. Mais Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs. Et les supermarchés, pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger, on va s'aimer encore, là pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui va sans gnaillette, qui a toujours un verre d'avance, des fois qu'on ferme la dernière porte, c'est pour rêver, faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux, tôt ou tard, ça va s'écrouler, mais leur histoire, on s'en fout, on s'en fout. Oh! Il y a Ginette qui continue à tourner. Allez Ginette, allez la belle. Allez Ginette,
de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM, désolé pour les fans de Tête Raide, on coupe la musique un petit peu plus tôt, mais elle est très longue. Et on veut profiter, jusqu'à la fin de cette interview, de Marie Indy, programmatrice donc tout public donc à l'Espace Malraux dans cette émission Sortée, toujours en direct. Et donc tout de suite, on va continuer de parler de cette programmation, parce qu'on s'en est rendu compte, on a assez peu pour le moment évoqué le théâtre notamment. Le théâtre et l'Espace Malraux, qu'est-ce qu'on peut y retrouver?
Alors... le théâtre à Malraux, c'est plein de choses différentes. C'est Édouard Berge, j'en disais un mot tout à l'heure. C'est François Morel, avec J'ai des doutes, le spectacle pour lequel il a reçu un Molière l'année dernière. Une sorte d'hommage à Raymond Devos, vraiment une magnifique pièce. Alors, je sais bien que peut-être que les auditeurs de Radio Campus ne connaissent pas François Morel et peut-être même encore moins Raymond Devos. Mais Devos, c'était un magicien des mots, en fait. C'est vraiment un humoriste génial qui était aussi chansonnier et là Morel lui rend hommage en redonnant à entendre et à voir ses plus grands sketchs. Mais vraiment c'est un spectacle très 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 beau, très poétique et très drôle. On aura aussi Pierre Richard, alors là aussi une espèce de référence, je sais pas si vous le connaissez, mais Pierre Richard c'est le grand blond
avec les chaussures noires,
avec les chaussures noires, enfin voilà, il a joué dans des films qui sont aujourd'hui des références de cinéma de genre pour moi par exemple, et là il est mis en scène par Mathilde Amet sur une pièce sans parole dans laquelle il campe un vieux monsieur avec qui on va rentrer chez lui dans son quotidien. Là aussi c'est très drôle, très poétique, mais c'est, alors le théâtre c'est aussi François-Xavier de Maison et François Berléand. pour une pièce qui s'appelle Par le bout du nez, qui raconte avec ces deux immenses acteurs la rencontre d'un président de la République nouvellement élu, qu'on pourrait très vite prendre pour Nicolas Sarkozy, et de son psychiatre pour régler un problème de grattage de nez le jour de l'intronisation du président. C'est là aussi une pièce très drôle, voilà. Et puis c'est le plaisir de les voir tous les deux sur scène, vraiment c'est un régal. Mais c'est aussi, et là j'ai parlé de coup de cœur, c'est aussi le syndrome du banc de touche. C'est une pièce qui a été écrite et qui est jouée par Léa Gérardet. Là, on n'est pas du tout dans la grosse tête d'affiche, hein, des gens dont je parlais juste avant. Cette pièce, ça raconte l'histoire de Léa, une histoire de comédienne qui en a marre d'être sur le banc de touche de son milieu professionnel. Et comme ça, elle va raconter sa vie et faire une jolie métaphore autour du footballeur sur le banc de touche et imaginer que son Peter Brook à elle serait une sorte d'Aimé Jacquet. Et c'est vraiment une pièce sublime, drôle, mais aussi hyper réaliste, voilà, qui parle du métier d'acteur. Donc là aussi, je vous invite à venir la voir. Je voudrais aussi vous parler du spectacle La Dispute, qui est mis en scène par Mohamed El-Khatib. Et là, c'est vraiment un projet tout à fait à part, puisqu'il met en scène six enfants qui ont entre 7 et 12 ans et qui racontent la séparation de leurs parents. Et c'est vraiment un moment très touchant, puisque tout est dit dans la bouche des enfants, et c'est vraiment les questionnements d'enfants suite à la séparation de leurs parents auxquels on a accès. C'est un peu la libération des mots. Moi-même, je me suis séparée du père de mes enfants, et quand j'ai vu ce spectacle, j'ai compris à quel point entendre ces enfants raconter à leur manière la séparation, en tout cas le petit ou gros trauma qu'ils ont pu vivre à ce moment-là, c'est assez passionnant. Alors, c'est une pièce qui est pas violente, mais qui quand même aborde des sujets assez forts. Voilà, qu'il faut entendre, et c'est une mise en scène très jolie, c'est pas un spectacle violent, pas du tout, ni vulgaire, ni rien, mais c'est une belle parole donnée aux enfants.
Et le fait de mettre en lumière et de mettre des enfants dans le théâtre, je pense que c'est quelque chose qui doit être intéressant,
ouais.
C'est quelque chose de pas habituel.
Ouais, tout à fait, c'est pas habituel, et puis surtout, ça montre à quel point le théâtre, c'est aussi une manière de dire des choses. Là, je parlais juste avant de Par le bout du nez, ou de choses plus légères, mais en fait, là, à travers ces œuvres, comme Le syndrome du banc de touche, La dispute, on touche à des faits sociaux, quoi, à des problèmes de société, à des questions de génération. Et du coup, on a la parole d'un artiste qui se libère sur une chose et qui peut aussi nous amener à réfléchir sur nos propres points de vue. Donc c'est bien aussi d'aller découvrir, de porter la curiosité sur des artistes qu'on ne connaît pas encore.
Ouais, ça, c'est, j'ai l'impression, le maître mot, parce que voilà, donc, dans cette émission Sortez, on reçoit différentes salles de théâtre, différents acteurs, et on se rend compte que c'est vraiment le maître mot. Allez au-delà de ce que vous connaissez.
Ouais.
N'hésitez pas à dépasser ses limites et vraiment soyez surpris, laissez-vous surprendre, parce que vous allez découvrir des choses que vous allez finalement probablement apprécier.
Exactement, vrai, il faut faire confiance. En plus, en tant qu'étudiant, quand on a le PCE, les spectacles de l'Espace Malraux, c'est 9 euros. C'est un peu plus cher qu'un cinéma, d'accord, mais quand même, ça... Ben voilà, ça peut vraiment changer des choses en soi. Moi, j'en ai vécu l'expérience. Moi, mes parents n'allaient pas au théâtre. Je suis jamais allée voir des spectacles avec mon père et ma mère. Je me souviens que j'avais vu un Molière au lycée. C'était l'enfer pour moi. J'ai découvert, en fait, le spectacle vivant par les concerts. Je suis allée voir des festivals, enfin voilà, quand j'avais 18-20 ans. Et j'ai découvert vraiment le spectacle vivant dans sa globalité après. Et les plus beaux spectacles que j'ai vus, c'est souvent des gens qui n'étaient pas forcément connus. Voilà. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que ce qui me plaît, voilà, c'est plutôt de me faire secouer le cerveau plutôt que de voir des choses grandioses ou spectaculaires. En fait, je trouve que le spectacle, il se passe aussi dans ce que ça raconte et dans le fait d'être surpris, voilà, de se cogner parfois à des choses à lesquelles on ne s'attendait pas.
Donc voilà, c'est important. Soyez surpris, laissez-vous surprendre. Et pour terminer cette programmation, on va peut-être parler de la musique, de l'aspect musical,
ouais.
Parce qu'il y a évidemment de la musique à l'Espace Malraux. Mm. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ? On a eu évidemment un aperçu déjà sur quelques musiques qu'on a diffusées juste dans cette émission. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre ?
Alors donc là, on entendait les Têtes Raides. Alors Là aussi, les têtes raides, c'est rigolo parce que j'imagine que les auditeurs de campus ne connaissent pas forcément les têtes raides.
Bien après, les auditeurs sont multigénérationnels, ouais. Donc peut-être que certains connaissent, mais ouais, les étudiants, c'est peut-être un peu plus compliqué.
C'est ça, je pensais surtout aux étudiants. Mais moi, par exemple, les têtes raides, alors moi j'ai 40 ans, donc pour moi, les têtes raides à 20 ans, c'était le groupe que j'ai vu 4-5 fois en concert. C'est vraiment une bande de musiciens qui mélange le rock et le musette, des guitares qui sonnent vraiment fort et de l'accordéon. Et puis surtout, de la poésie dans les mots, quoi. Et bon, Ginette, si vous l'avez entendu, vous pouvez vous en a donné un petit aperçu. Mais les têtes raides, c'est aussi des concerts super beaux, quoi. Il y a vraiment une énergie, une générosité. Moi, je suis très contente de les accueillir le 18 mars prochain.
Tu seras dans la salle, j'imagine.
Ah oui, je serai dans la salle. Moi, je suis tout le temps dans la salle.
Au premier.
Je regarde toujours les. Enfin, parce qu'en vrai, tous les spectacles que je programme, je les aime vraiment. Ouais. Je veux dire, le plus gros truc super varié, tout commercial, je suis aussi super fan quand on l'accueille, c'est que vraiment j'aime ça, quoi.
C'est une bonne chose finalement.
Bah ouais, c'est bien d'aimer ce qu'on fait.
mais complètement.
Donc voilà. Yael Naïm aussi. Alors Yael Naïm, on l'accueillera le 10 mars. Alors Yael Naïm, elle a sorti son nouvel album au plein milieu du confinement, donc c'est un peu passé inaperçu. C'est vraiment dommage parce que là, elle est seule au piano. En tout cas, sur scène, elle sera seule au piano accompagnée d'une dizaine de choristes femmes. Donc, Yael Naïm, c'est la voix notamment de New Soul, un titre qui a été un espèce de gros tabac il y a une dizaine d'années. Elle a beaucoup tourné, notamment avec David Donatien, son compère. Et là, elle repart seule, donc je vous le disais, seule au piano avec ses 10 choristes. Sur ce nouvel album qui est assez sombre, mais qui est très très beau, qui est très lumineux finalement, des mélodies très fines, et puis une voix surtout. Yael Naïm, c'est une artiste israélienne d'origine qui vit aujourd'hui à Paris et qu'on avait déjà accueillie, nous, à Malraux, il y a au moins 6 ans. Et que je suis très très contente d'accueillir de nouveau. Et puis, au niveau des concerts, alors j'en parle, mais pour la blague, hein, on accueillera aussi Dave, oh. le grand Dave, l'immense chanteur de variété originaire de Hollande. Je sais pas si toi t'avais vu cette pub qu'il faisait pour le Gouda ou les Dames à l'époque, c'était trop drôle.
Je me rappelle pas de ça, mais évidemment Dave.
Ouais,
voilà.
Mais c'est aussi le chanteur de Vanina et de plein d'autres tubes comme ça. Dave, générosité. Génial. Pour faire de la pub aussi pour nos partenaires commerciaux, on accueillera aussi Aldebert le 20 décembre. Aldebert, chanteur pour enfants, pour son concert dessiné. Là aussi, on est trop content de l'accueillir. C'est super, Aldebert. Faites écouter ça à vos enfants si vous en avez. En termes de musique, pour ce qui est de ma partie, je crois que j'ai fait le tour. Si, Lisa Simone, pardon. Lisa Simone, donc la fille de Nina Simone, qui est vraiment la digne descendante de sa mère. Elle vit à Barcelone, je crois, Lisa Simone. Elle s'est installée là-bas. Moi, je l'ai beaucoup vue dans des reportages avant même de l'écouter. C'est-à-dire qu'évidemment, dès qu'on parle de sa mère, souvent, on va l'interroger. C'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire, qui fait un jazz... très beau, très soul. Évidemment, elle va puiser tout ça dans ses racines afro-américaines. Et ça, c'est un concert qu'on co-accueille avec le Petit Faucheux. Et ce sera le 26 mars prochain et dans le cadre de Bruce Mandel, qui déroule comme chaque année au mois de mars et qui met comme ça un coup de projecteur sur l'expression artistique au féminin.
Donc voilà, plein de choses très importantes. Bruce Mandel aussi, partenaire de Radio Campus Tour. On est
tout
partout finalement.
Bah oui, c'est
on se regroupe un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour de cette programmation. Donc évidemment, vous avez eu beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à aller les retrouver sur le site internet. Je le rappelle, esmasmalraux.jouerlestours.fr. On va maintenant parler peut-être rapidement de la programmation. Donc là, c'était tout public, pardon. Peut-être jeune public. Qu'est-ce qu'il y a comme programmation marquante pour cette programmation donc jeune public?
Eh bien, je vais parler de Ravi, en fait, qui est le spectacle de la compagnie Mobius Band, qui est une compagnie de Tours, qui va venir faire sa première le 4 novembre, que je ne dise pas de bêtises.
Moi, j'ai le 3 novembre.
Eh bien, c'est le 3
donc
novembre.
Donc, mardi 3 novembre à 14h15 et 20h
au théâtre. Donc, il y aura une séance scolaire à 14h15. Et puis... une séance à 20h. Donc Mobius Band, c'est Pauline Bourse à l'écriture et à la mise en scène. Enfin, l'écriture là, en l'occurrence, c'est une adaptation de La chèvre de Monsieur Seguin, réécrite. Et c'est deux comédiennes, Émilie Beauvais et Elvire Gauquelin. qui sont sur scène. Alors moi, j'avais vu une sortie de résidence il y a un an déjà de ce spectacle. Mais ce qu'il faut savoir de Mobius Band, c'est que c'est une vraie dramaturgie, et puis une vraie connaissance de l'écriture jeune public au théâtre. Puisque ce spectacle est proposé à partir de 9 ans. Et donc, je vous invite vraiment à venir voir cette nouvelle pièce donc qui sortira le 3 novembre. Le jeune public, c'est voilà, un certain nombre de spectacles qu'on pourra retrouver sur le site, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, le festival Circuit Biscuit qui se déplace dans la ville et chez nos partenaires au mois de mars. C'est aussi des spectacles pour la famille. Alors je pense par exemple à Damien Bouvet qu'on accueillera pour un diptyque autour de la figure de l'ange au mois de février. L'ange passage pour les enfants et le passage de l'ange pour les grands. Les 16 et 18 février prochains. Damien Bouvet, c'est un artiste de la région qui est une espèce de grand homme un peu ogresque, qui est seul en scène, qui travaille beaucoup avec l'objet, les mots, la poésie, une espèce d'influence comme ça, artistique, très conceptuelle, mais pour au final des spectacles très impressionnants, très visuels. Là aussi, vraiment un univers artistique à découvrir. Et puis, les clowns de Pspst, un duo de clowns italiens qui vient jouer le 2 février à 20h30. Là, pour un duo assez traditionnel de clowns, enfin voilà, on connaît l'Auguste, le clown blanc. Et c'est ce qui est beau avec le clown, c'est qu'avec 2-3 bouts de ficelle, y a un univers qui émerge, même parfois sans parole, on arrive à partir, très loin avec eux. Voilà pour une petite description rapide.
La programmation jeunesse. Ouais. On approche déjà de la fin de cette interview. Peut-être revenir rapidement sur les partenaires de l'espace Malraux, notamment la ville de Joué-lès-Tours, ouais. Forcément. Alors, il y a pas mal de choses qui sont... Enfin, plus que partenaires, d'ailleurs.
Ah bah c'est Malraux est municipal. Hein. Malraux dépend de la ville de Joué-lès-Tours. Ah bah oui, moi, mon patron, c'est monsieur le maire.
Moi aussi. Ouais. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Qu'y a-t-il comme partenariats qui sont mis en place tout au long de l'année avec la ville?
Alors, plein de choses, en fait. Nous, on est un service de la ville. Hein. Ouais. On est un service de la ville. On travaille régulièrement avec, donc je disais, la petite enfance, le service jeunesse, le service événementiel, notamment avec les années jouées, puisqu'on a deux spectacles qui sont labellisés années jouées. En fait, on s'est amusé à essayer d'imaginer les rendez-vous d'hiver des années jouées qui, comme vous le savez, ont lieu le premier week-end de juin chaque année. Et là, cette année, c'est le duo de clowns dont je vous parlais tout à l'heure et les Gandini Jungling, qui est une compagnie de danse et de jonglage anglaise qui viendra elle au mois d'avril. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on mitonne tous ensemble. Il y a évidemment aussi des partenariats avec la médiathèque, l'école de musique, puisqu'on accueille Orchestrus aussi au mois de fin janvier 21. Donc comme ça, des liens concrets sur des thématiques artistiques et culturelles au fil de l'année tous ensemble.
Donc voilà, on va revenir rapidement sur les informations pratiques finalement, parce qu'on on approche vraiment de la fin. Déjà rappelé, donc l'espace Malraux, si tu as joué les tours.
Ouais.
Les tarifs peut-être? Quels sont les tarifs des spectacles qui sont donc affiliés, évidemment, enfin qui sont produits et proposés par vous?
Alors là, il y a des tarifs qui sont différenciés par spectacle, donc je ne peux pas vous donner, peux vous dire exactement. En fait, il faut aller regarder sur le site, mais en tout cas, on fait un tarif pour les Jocondiens. Si vous habitez Joué-lès-Tours, vous avez un tarif qui est équivalent au tarif de l'abonnement. On a une formule d'abonnement qui, à partir, si vous choisissez 4 spectacles minimum, vous avez pareil, des tarifs réduits. Si vous êtes étudiant, chômeur, si vous avez moins de 25 ans, là aussi, il y a des tarifs réduits qui sont proposés. Et là, il faut vraiment aller voir sur le site.
Voilà, donc c'est plein de choses. N'hésitez pas. Peut-être le mot de la fin. Allez voir le site.
Ouais.
N'hésitez pas à vous renseigner. Donc voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Marie Indy, qui est, donc, je le rappelle, programmatrice tout public à l'espace Malraux à Joué-lès-Tours. Merci beaucoup d'avoir été là. On va se quitter en musique, évidemment, pour se quitter pour cette interview, mais n'oubliez pas, restez avec moi, car Sortez continue pour quelques minutes pour votre agenda. Mais tout de suite, on va écouter Yael Naïm, justement, vous en parliez tout à l'heure, que son travail était passé un peu de côté, donc voilà, on va l'écouter, on va écouter son titre Back, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Profitez-en, merci beaucoup, et c'est parti, on écoute ça.
Bon bah merci.
Love you have been caring. place where you'll be safe to sing again.
You how to